Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien toujours à l'écoute de Radio Campus Angers 103 FM. Place au pédalo, l'émission d'information quasi quotidienne qui vous donne du baume au cœur. Au sommaire de ce troisième pédalo de la saison, nous écouterons pour débuter un extrait du célèbre opéra La Flûte Enchantée, illustre œuvre musicale composée en 1791 par le non moins célèbre Wolfgang Amadeus Mozart. Puis suite à cette douceur musicale, nous retrouverons une interview d'Alain Surons qui nous parlera de l'événement Opéra sur écran, un événement gratuit et qui fait sortir l'opéra des salles de spectacle et le fait arriver jusque dans votre télé. Pour l'occasion, un grand écran géant sur la place du ralliement, façon fanzone de Coupe du Monde pour pouvoir regarder cette masterpiece en plein air. C'est le mercredi 18 juin, on en parle d'ici quelques minutes. Vous avez le programme, n'oubliez pas d'ajuster votre gilet de sauvetage. Le pédalo part à l'abordage. Nous allons maintenant écouter l'air de la Reine de la Nuit, tiré de l'opéra La Flûte Enchantée, qui sera le sujet de la suite de cette émission. Hissez la grand voile et en route pour une aventure musicale enchanteresse.
Du bist du Herr, 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 Herr,
un extrait de l'opéra La Flûte Enchantée de Mozart avec le célèbre air de la Reine de la Nuit, un opéra qui se joue actuellement au Grand Théâtre d'Angers et ce jusqu'au 18 juin prochain. Cela faisait 10 ans que l'on avait pas vu La Flûte Enchantée à Angers, l'ultime chef-d'œuvre de Mozart et cette fois mise en scène par Mathieu Bauer qui tient beaucoup à rester dans l'esprit du conte et donc d'une certaine naïveté. Angers Nantes Opéra et l'Opéra de Rennes s'associent une nouvelle fois pour proposer gratuitement aux spectateurs et aux spectatrices un opéra sur écran. La Flûte Enchantée de Mozart sera retransmise en direct du Grand Théâtre d'Angers pour une projection gratuite en plein air. Cet opéra est présenté en allemand sous-titré français pour une durée de 3h15 quand même, avec un entracte tout de même, histoire de vous dégorder un peu les gambettes. On récapitule, rendez-vous mercredi 18 juin. Place du ralliement à Angers, devant le Grand Théâtre, et c'est donc gratuit. Un conseil, vaut mieux arriver tôt, histoire d'être sûr d'avoir une place assise. Quant à nous, à présent, retrouvons Alain Surance pour nous parler plus en détail de cet événement, une interview réalisée par mon collègue Hugo.
Alain Surance, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur d'Angers Nantes Opéra, et le 18 juin, c'est une représentation toute particulière organisée par Angers Nantes Opéra, c'est Opéra sur écran. Est-ce que vous pourriez un peu déjà nous raconter, Alain, l'intérêt que c'est de pouvoir diffuser comme ça, de manière très large, à grande échelle, sur des écrans géants, dans deux régions, un opéra ?
Alors, d'abord, c'est un processus un peu complexe, hein, puisque nous serons donc en direct d'Angers. La représentation aura lieu à Angers au Grand Théâtre et nous filmons et nous diffusons en direct grâce aux caméras de France Télévisions, qui est un des partenaires importants du projet. Il y aura d'ailleurs par la suite des retransmissions en différé sur France 3, Pays de la Loire et Bretagne. Et puis, il y aura un direct sur le site internet de France 3, Pays de la Loire. Donc, c'est une première diffusion qui va permettre de toucher un large public. Et puis, nous avons partenaires de cette soirée, également les télévisions locales. Les télévisions locales de Bretagne, les télévisions locales des Pays de la Loire, à savoir Angers Télé, Télé Nantes, Télé Vendée et Le Mans TV Sarthe. Il y a aussi d'ailleurs la télévision de Tours qui se joint à nous ce soir-là. Donc nous allons avoir des directs sur des télévisions en plus. Ça veut dire que nous pouvons compter sur un bassin de téléspectateurs énorme et que, comme les fois précédentes, quand nous avons fait des mesures médiamétrie, nous pouvons compter sur 80 à 100 000 spectateurs qui vont regarder tout du long la représentation sur leur écran de télévision.
Et sur puis, les écrans de télévision, mais aussi donc à l'air libre, c'est ça qui est intéressant.
Oui, alors le deuxième étage de la fusée, c'est la diffusion sur des écrans libres, sur des écrans en plein air, d'abord dans nos trois villes phares, c'est-à-dire Angers, Nantes et Rennes, donc sur la télévision angevine, ça va être diffusé donc en direct sur la place du ralliement, depuis le Grand Théâtre. Donc, c'est un direct qui nous permet de suivre vraiment pas à pas ce qui se passe à juste 150 mètres de là, sur le plateau du Grand Théâtre.
Donc, c'est parce que l'intérêt aussi… Oui, pardon, allez-y.
Donc, nous avons ces trois écrans, grands écrans LED sur les trois places de Angers, Nantes et Rennes. Et puis, nous avons 40 autres communes qui retransmettent dans des lieux qui sont plutôt des lieux fermés, là, des centres culturels, des cinémas de quartier, des cinémas associatifs, des microfolies également. Donc, nous avons une quarantaine de villes de tous les départements des Pays de la Loire et il y en a tout autant, d'ailleurs, dans les quatre départements de la Bretagne qui vont aussi retransmettre en direct. Et là, nous allons toucher, je dirais, entre 10 et 15 000 spectateurs sur nos différents sites. Les années précédentes, nous avons eu une très belle participation du public à Angers, et donc on peut compter sur 2000 personnes qui vont se déplacer sur la place du ralliement pour retrouver cette flûte enchantée.
Et l'intérêt, donc justement, c'est que contrairement à ce qui a pu arriver à de multiples reprises, là, ce n'est pas du tout depuis Nantes. C'est directement dans le Grand Théâtre d'Angers, et c'est pas arrivé si souvent que ça.
Non, parce que jusqu'alors, donc, nous avons une espèce d'alternance entre Nantes, Rennes et Angers. Mais l'année où nous aurions dû retransmettre en direct d'Angers, c'était la deuxième année du Covid, c'était 2021. Et donc, nous n'avons pas pu faire un direct. On a fait une retransmission beaucoup plus confidentielle. Les spectateurs pouvaient tout juste commencer à rentrer dans les théâtres à l'époque. Et nous avions fait un direct. Un différé dans le cloître de la Toussaint à Angers. Donc, c'était beaucoup plus confidentiel. Pour la première fois, on a un direct du Grand Théâtre sur la place du ralliement.
Est-ce que pour vous, ça représente quelque chose de particulier ?
Oui, ça représente quelque chose de particulier pour Angers Nantes Opéra parce qu'en une seule soirée, nous nous adressons à plus de spectateurs que nous n'en avons dans toute la saison. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc pour nous, c'est un moment très très fort et un moment très particulier de rencontre avec des publics et aussi beaucoup des publics qui ne viennent pas dans nos théâtres. Pourquoi ? Parce que beaucoup de ces spectateurs viennent avec leurs enfants. Dans un théâtre, ils auraient peur que les enfants s'ennuient, donc ils ne viendraient pas, en fait. Donc, mais là, sur la place du ralliement, sur la place Gralin à Nantes, sur la place de l'Hôtel de Ville à Rennes, bon, ils n'ont pas peur. Si jamais les enfants sont trop turbulents et s'ennuient, ils peuvent repartir, il n'y a pas de contrainte. Donc, ça nous permet de toucher des publics qui ne viennent pas souvent dans nos théâtres. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Ça, ajouté au nombre, hein, comme je l'ai souligné, puisque vraiment, je pense qu'on doit pouvoir compter sur entre 80 et 100 000 spectateurs en tout, ce qui est énorme, évidemment, pour nous.
À noter en plus, et c'est ça qui est important aussi pour nos auditeurs et auditrices de bien comprendre, c'est que toutes les représentations de La Flûte Enchantée proposées par Angers Nantes Opéra sont complètes, archi-complètes, il n'est plus possible de trouver une seule place.
Oui, on en retient toujours quelques-unes pour les vendre dans les dernières semaines, pour qu'il ne soit pas dit que nos spectacles sont pleins dès le mois de septembre, mais la vérité, c'est qu'effectivement, ils sont déjà bien remplis au mois de septembre, au moment où nous lançons la billetterie. Donc effectivement, c'est un peu frustrant, et ça nous permet, ces opéras sur écran, effectivement, d'élargir notre public, notre audience, de manière assez spectaculaire.
C'est quoi la différence entre pouvoir regarder un opéra dans la salle de théâtre, dans la salle d'opéra, et un opéra sur écran ? Est-ce qu'on arrive à ressentir les énergies ? Est-ce qu'on arrive à ressentir la direction artistique et la proposition du metteur en scène, malgré le fait que ce soit sur un écran ?
Alors, c'est vrai que l'écran, c'est-à-dire qu'il retransmet, il envoie quelque chose, mais en même temps, c'est un écran, c'est-à-dire qu'il fait écran entre le spectacle et les spectateurs qui regardent sur cet écran. Cependant, il y a tout de même beaucoup de choses qui jouent vraiment en notre faveur. Bon, d'abord, le fait que ce sont des grands écrans. Et ça, c'est très important. C'est pas un opéra. Les opéras, ça se regarde pas sur un téléphone portable. Il y a rien à faire. Donc, le grand écran, ça permet tout de même de créer une dimension qui est immersive pour le spectateur. La qualité des écrans LED que nous proposons, on est au bord de la 4K, si vous voulez, ça permet beaucoup de choses. Et puis, la réalisation est quelque chose d'important. Nous avons un réalisateur depuis 6 ans, qui est Jean-Pierre Loisil, qui est quelqu'un qui vient de la musique, qui sait tout aussi bien capter le son que l'image, et qui fait des réalisations de nos opéras qui sont très très fidèles et qui sont très sensible à la musique, je dirais même hypersensible à la musique, ce qui donne une qualité formidable à ces retransmissions qui sont pas simplement une captation d'image, il y a un vrai travail de réalisation et ça nous permet d'être vraiment très proche des artistes qui sont en train de chanter sur le plateau. Et puis, dans le cas des grands écrans qui sont sur nos places, hein, que ce soit à Rennes, sur la place Gralin à Nantes ou sur la place du Ralliement, il y a aussi cette ferveur. Quand on est plus d'un millier de spectateurs, évidemment, il y a cette espèce de communication latérale qui donne une grande chaleur aussi à la réception du public. Et ça, nous l'avons observé tout autant avec des ouvrages tragiques comme Madame Butterfly ou Tosca ces dernières années, que sur un ouvrage comique comme L'Élixir d'amour, il y a 2 ans maintenant. Donc, il y a une capacité à embarquer le spectateur qui est très très forte et qui fait que c'est un vrai événement, que d'ailleurs on a pu le remarquer, les gens ne partent pas en cours, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même les enfants d'ailleurs très souvent ont envie de rester jusqu'au bout parce que c'est une expérience qui est une expérience pas commune. Et ce sera une expérience d'autant moins commune que cette année, il s'agit de la Flûte enchantée.
Voilà, alors, la Flûte enchantée, parlons-en un petit peu. C'est un des opéras les plus connus de Mozart, pour ne pas dire le plus connu de Mozart. Vous disiez en conférence de presse que tout un chacun pouvait à un moment entonner l'air de la Reine de la Nuit et pouvoir le meumeumer. Est-ce qu'on pourrait un peu l'écouter là de votre bouche?
Oui, enfin, je ne dis pas forcément qu'on peut tous entonner l'air de la Reine de la Nuit, et je ne m'y risquerai pas parce que d'ailleurs…
Chantonner plutôt, si vous voulez.
Je n'ai pas la voix d'une Reine de la Nuit, il faut une voix très aiguë pour la Reine de la Nuit, mais moi je m'identifierais plutôt à Papageno. C'est aussi un personnage dont les airs sont très très connus. « Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, hei, sa, hop, sa, sa ». Voilà, il y a une gaieté très communicative dans la Flûte enchantée. C'est un conte merveilleux avec des personnages qui ont l'air de personnages de convention, comme le prince Tamino et la princesse Pamina. En fait, ce sont des jeunes gens qui doivent traverser des épreuves pour pouvoir concrétiser leur amour. Il y a un personnage de fantaisie merveilleux qui est Papageno, donc l'oiseleur, qui est un personnage tout en fantaisie, mais aussi en tendresse. C'est un personnage qui souffre. Ce qui est merveilleux dans la Flûte enchantée, c'est que tout le monde a des sentiments, tout le monde souffre des situations qu'impose la vie. Donc, il y a une grande, grande familiarité de l'ouvrage avec ses publics. Et même la langue allemande, qui est la langue de Mozart et qui est la langue de cet ouvrage, n'est absolument pas, un frein pour la compréhension et pour la joie qu'on peut avoir à écouter et regarder cet ouvrage. La mise en scène de Matthew Bauer, elle garde cette fraîcheur intacte, elle veut absolument jouer sur cette fraîcheur, sur cette naïveté, parfait.
Avant de parler de la mise en scène, peut-être, donc vous disiez que c'était un opéra en allemand, parfois on peut entendre sa version traduite en français, là le choix a été fait dans la mise en scène de conserver la langue allemande. Je suppose que sur les écrans il y aura des sous-titres, au théâtre il y aura des surtitres, donc juste au-dessus de la scène. Pourquoi ce choix de rester en langue allemande plutôt que de faire l'opéra traduit en français ?
Pour ce qui est de la musique, en tout cas, c'est clair que un ouvrage dans une langue, la musique colle à la langue. Donc, c'est très difficile de changer les paroles. Ça a été fait dans le passé. La Flûte enchantée a été traduite en français, mais c'est tout de même très bancal au plan de ce qu'on appelle la prosodie, c'est-à-dire la mise en musique d'un chant parlé. Et on s'y risque plus aujourd'hui à l'opéra, puisqu'on a résolu le problème de la compréhension par les surtitres. Il y a aussi dans la Flûte enchantée des dialogues parlés qu'on aurait pu faire en français, mais on le souhaite pas puisque le reste est en allemand. Et puis, en fait, il y a une musicalité parlée aussi de l'allemand, qui est une très belle musicalité, contrairement à ce que tout le monde dit en France. L'allemand n'est pas une langue gutturale, c'est une langue très poétique qui se prête très très bien à des dialogues poétiques, et donc on a décidé de garder ça. Évidemment, c'était aussi le choix du metteur en scène. Pour le directeur musical Nicolas Ellis, qui est le directeur de l'orchestre de Bretagne qui sera en Fosse, c'est évident que cette Flûte enchantée, elle doit être faite entièrement en français. Lui-même est anglophone et francophone, mais ça ne le gêne pas parce qu'on apprend tous à travailler avec l'allemand, qui est une des grandes langues de l'opéra.
Parlons un peu de la mise en scène. Ce ne sera pas une mise en scène classique telle que l'avait peut-être imaginé Mozart au moment de l'écriture de cette pièce. Là, c'est une mise en scène qui tourne autour de la fête foraine. Sur scène, il y aura une grande roue, il y aura du pop-corn et de la barbe à papa. Enfin, est-ce que vous pourriez un peu nous en parler, la Flûte enchantée, comme ça, en pleine fête foraine ?
Alors, l'univers de la Flûte enchantée, c'est un univers magique. La flûte est enchantée, Zauberflöte, la flûte qui fait des choses étonnantes. Il y a un Carillon qui fait des choses étonnantes. Donc, c'est tout de même quelque chose qui est fondé sur le merveilleux. Il y a des petits coups de théâtre, il y a des personnages qui apparaissent, qui disparaissent. On est dans la féerie. Et Mozart avait en tête avec le librettiste de la Flûte enchantée, qui s'appelait Schikaneder, qui était un directeur de théâtre, l'idée de faire une vraie fantaisie. Schikaneder, il était couvert de plumes, c'est lui qui faisait le rôle de l'oiseleur. La reine de la nuit apparaissait au milieu des étoiles dans le ciel. Donc, on est dans l'ordre de la féerie. Le choix de Matthew Bauer, c'est de transposer cette féerie dans un univers qui est celui qui nous a tous mis des étoiles dans les yeux quand nous étions gamins, c'est l'univers de la fête foraine. Et de fait, ça fonctionne très très bien parce que oui, on retrouve tous notre âme d'enfant quand on regarde une fête foraine. Et c'est ça qu'il a merveilleusement imaginé et réalisé avec un décor qui est un décor qui tourne, qui change un peu sans cesse, comme quand nous déambulons dans une fête foraine. Et toutes les apparitions, disparitions, les transformations, elles sont modelées sur les différents éléments qui composent le décor de cette fête foraine. C'est une idée extrêmement astucieuse et qui fonctionne du début à la fin et qui
nous permet... Est-ce que ça fonctionne vraiment ? Est-ce que ça fonctionne vraiment, cette mise en scène ? Parce que comme ça, là, ça a l'air complètement déjanté. Alors, c'est peut-être l'ambition qu'avait eue Mozart à l'origine, mais là, comme ça, il pourrait parfois y avoir des écarts ou en tout cas des prises de liberté qui pourraient parfois nous sortir de l'œuvre originale. Là, c'est pas le cas.
Non, parce que du début à la fin, on est sur l'esprit d'enfance. Et l'esprit d'enfance, c'est ce qui a guidé Mozart, c'est ce qui a guidé Schikaneder. Et c'est tout de même beaucoup plus probant que des mises en scène très abstraites qui veulent insister sur les sous-entendus prétendus, francs-maçons notamment, de la Flûte enchantée. Là, on est dans une lecture qui est une lecture pour que tout le monde sourie, pour que tout le monde ait la banane, et c'est bien de ça qu'il s'agit. Et c'était bien ça le projet de Mozart et Schikaneder.
Une dernière question, Alain Surens, avant de se laisser sur les ondes de Radio Campus Angers. La particularité aussi de la Flûte enchantée de Matthew Bauer, c'est que c'est une coproduction Angénante Opéra avec l'Opéra de Rennes, c'est-à-dire qu'il y a deux entités qui se sont mises ensemble pour financer la création de cette pièce, de cet opéra. Combien ça coûte de réaliser un opéra comme celui-là, surtout dans le contexte actuel des coupes budgétaires dans la région Pays de la Loire ? Est-ce que c'est toujours facile ? Est-ce que c'est toujours possible de produire ce genre de pièce-là ? Et combien ça coûte ?
Alors, une production d'opéra, si vous comptez les 12 représentations que nous aurons présentées donc depuis le début mai, ça coûte environ, coût de production, coût de représentation, à peu près 1 million. Donc, ce sont des soirées assez chères. Bien sûr, si vous rapportez à la représentation, mais c'est aussi un spectacle qui emploie un nombre très conséquent de personnes. Quand vous travaillez sur un opéra comme celui-là, vous avez 18 rôles, vous avez un chœur de 20 personnes, vous avez un orchestre de 50 personnes. Donc, on a très vite une centaine d'artistes qui contribuent, qui sont là au plateau. Vous avez aussi beaucoup de techniciens parce que, notamment avec un décor qui tourne, qui n'arrête pas de se déplacer, il faut beaucoup de techniciens. Donc, c'est normal, j'allais dire, que ce soit un spectacle relativement cher. Ça reste moins cher qu'un spectacle comme Starmania. Or, pourtant, un spectacle comme Starmania, vous n'avez qu'une vingtaine de musiciens et une vingtaine d'artistes sur scène. Donc, il y a peut-être 30, même pas. Donc, ça veut dire que on est dans une économie qui est très, très différente de celle d'un spectacle qui va être exploité très longtemps et qui coûte souvent beaucoup plus cher à la production.
Starmania, réalisé par Thomas Joly, très bien connu des Angevins et des Angevines, à l'origine de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Je vous repose la question par rapport aux coûts budgétaires de la région Pays de la Loire. Est-ce que ce genre de production sera toujours possible dans les années à venir ? Est-ce que vous allez devoir réduire la voilure ? Est-ce que ça va faire figure d'exception ?
Alors, ça ne va pas faire figure d'exception, mais c'est sûr qu'on est obligé de revoir un peu la voilure, comme vous vide dès lors que nous avons des coupes budgétaires qui sont tout de même assez conséquentes. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Il faut remettre autour de la table l'ensemble des financeurs d'Angers Nantes Opéra qui sont tout à fait prêts à le faire, de même que se remettent autour de la table en ce moment les financeurs de l'Orchestre national des Pays de la Loire, qui est un partenaire très important pour nous et dont il importe qu'il puisse poursuivre harmonieusement ses activités de manière à ce que nous aussi, nous puissions continuer harmonieusement notre activité. Il y a évidemment une adaptation. La saison prochaine va être moins fournie que la présente saison à Angers Nantes Opéra. Mais voilà, on va rebondir, on est là pour ça. Les maisons d'opéra, vous savez, elles existent depuis très longtemps en France. J'ai toujours entendu parler de crise d'opéra, moi, depuis 40 ans que je suis dans le métier. C'est toujours la crise à l'opéra. Et quand je lis la presse des années 50, 60, 70, donc bien avant que je sois dans l'activité lyrique, je lis dans la presse donc les mêmes choses. La crise à l'opéra de Nantes, la crise à l'opéra d'Angers. Voilà. Et en même temps, on rebondit. On invente des nouvelles formes d'associations. Et c'est vrai que, d'une part, associer Angers et Nantes a été une étape très importante. La collaboration systématique avec l'Opéra de Rennes a été une deuxième étape aussi très, très importante. Voilà, on trouve des solutions avec le temps.
Eh bien, merci beaucoup, Alain Surance, d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de la Radio Campus Angers. Je le rappelle, la Flûte Enchantée, diffusée sur vos télévisions en direct sur la place du Ralliement, sur un très grand écran géant, c'est le 18 juin. Ça commence à quelle heure? 20h?
Ça commence à 20h, il faut être là un peu avant, évidemment.
Évidemment, pour avoir un peu de place.
Oui.
Et voilà, c'est l'occasion de voir de l'opéra gratuitement, de s'essayer, de pouvoir partir, mais aussi de pouvoir rester, si jamais le cœur vous en dit. Alors, n'hésitez pas et venez faire un tour Place du Ralliement ou bien dans toutes les autres salles, tous les écrans qui diffusent La Flûte Enchantée le 18 juin sont disponibles sur le site d'Angers Nantes Opéra et sur le site de Radio Campus Angers, évidemment. On vous met toute la liste. Merci beaucoup à Alain Surance d'avoir répondu à nos questions.
À bientôt.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Angers 103 FM. Un grand merci Hugo pour la technique de cette émission et surtout un grand merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute et pour toutes ces bonnes ondes partagées ensemble, car souvenons-nous que les bonnes ondes, c'est pour tout le monde. Rendez-vous lundi pour la prochaine croisière pédalistique. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée ainsi qu'un bon week-end. À lundi, même horaire, même fréquence et d'ici là, restez bien à l'écoute de Campus.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.